Nous terminons cette émission de littérature avec le numéro spécial de l'excellente revue Galaxy, grande revue de science-fiction. Un numéro spécial sur la science-fiction africaine, dirigé par Katie Stewart, en direct par téléphone. Merci d'être avec nous.
Oui, bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui présidait à ce numéro spécial sur la science-fiction africaine ?
Alors, l'idée, c'était de faire la partie littéraire d'une grande exposition sur le futur et la science-fiction à la Gaîté Lyrique. Donc, c'est un projet qui est tombé à l'eau. Sauf que, en découvrant ce qu'il était possible de faire sur ce thème, on n'a pas laissé tomber, mais vraiment pas. Et du coup, j'ai travaillé avec Oulimata Gueye, du coup, qui devait faire cette exposition. Donc, j'ai travaillé avec elle sur les thématiques et ensuite donc avec Pierre Gévard, on a travaillé du coup sur le choix des textes, le choix des interviews, enfin voilà la constitution de ce numéro spécial.
Alors, il y a tout un enjeu, je trouve, sous-jacent dans son numéro, qui est résumé peut-être par l'article de Walt Talabi, qui s'appelle « Pourquoi l'Afrique a besoin de science-fiction ?». Lui, il est ingénieur et écrivain, il habite à Kuala Lumpur en Malaisie. Il explique qu'il est très important pour les Africains de disposer de leur propre science-fiction et d'être créateurs de science-fiction. Il en fait un enjeu. Et j'ai l'impression que c'est en filigrane tout ce qui est contenu dans ce numéro.
Oui, alors on peut le lire de manière vraiment différente. Hein. C'est assez amusant une fois qu'il est fait. Alors ce thème revient régulièrement au travers des interviews, au travers des textes aussi d'ailleurs, quand on les lit sous cet angle-là. Et Walt Talabi lui donne une réponse. Et j'ai plusieurs personnes donc, qui donnent des réponses différentes. Donc lui va plutôt parler d'un besoin de susciter des vocations scientifiques. En disant, en prenant son propre exemple et puis celui des gens qui l'entourent dans son milieu un peu d'ingénieur, susciter des vocations, donner envie de rêver, d'imaginer et de faire de la science quelque chose de drôle et d'intéressant. Donc ça, je trouve ça, c'est une réponse, c'est la réponse qu'il donne. Il parle aussi d'un lien nécessaire entre les savoirs anciens et les technologies du futur. Et donc, lui, il voit l'intérêt de la science-fiction africaine là.
Voilà, c'est effectivement le deuxième volet de son article. Donc, premier volet, il énonce que la plupart des lecteurs de science-fiction sont ingénieurs ou scientifiques et que ça pourrait donner un élan, une envie, une vocation scientifique aux Africains. Et puis, il y a cette belle ambition, je vais le citer un peu longuement. Il écrit... Il nous faut des récits montrant des Africains utilisant la science pour faire avancer le monde. Il nous faut des récits montrant des Africains à la tête d'équipes internationales partant terraformer Mars. Il nous faut des récits montrant un docteur africain combinant une analyse scientifique rigoureuse avec des médecines traditionnelles jusque-là ignorées pour guérir le cancer. Il nous faut des récits montrant la renaissance technologique imminente de l'Afrique et les découvertes qui pourraient la mettre en branle. Il nous faut des récits de dystopie africaine qui nous poussent à nous demander si c'est l'avenir que nous souhaitons. Il nous faut être capable d'imaginer le futur avant de pouvoir le créer. C'est... Là, il pose vraiment des enjeux d'une ambition sur il faut de la science-fiction africaine créée par des Africains.
Oui, pour proposer aussi un modèle, c'est aussi la question de la représentation. On se pose le même genre de questions quant au cinéma. C'est-à-dire qu'il faut que tous les enfants de toutes les couleurs puissent s'identifier à des héros. Donc, c'est aussi cette... cet aspect-là. Alors, c'est pas le seul à répondre à cette question. On a Moussa Oudebnou qui nous livre un texte intéressant et qui répond à une interview et lui aussi a sa réponse là-dessus. Donc, il parle aussi du lien entre les savoirs anciens et la technologie, mais il voit aussi un moyen de renverser le rapport au temps. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant également.
Oui, il dit que la science-fiction peut produire une véritable révolution copernicienne dans la pensée africaine.
C'est ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans la question qui lui est posée, on lui parle de développer la question africaine. Alors, je pense que c'est un peu maladroit de poser ça comme ça. Ça fait comme s'il n'y avait pas de pensée. Bien sûr qu'il y en a une. Mais il s'agit plutôt de l'adapter à des questionnements qui vont être nouveaux. Donc ça, il le souligne, c'est-à-dire l'avènement de la technologie, l'avènement des angoisses et des rêves suscités par la technologie, ça va forcément créer des questions qui ne vont pas pouvoir être éclairées par un passé. Lui, ce qu'il dit, alors je le crois sur parole, c'est que les Africains auraient tendance à plus se tourner vers le passé pour comprendre ce qui se passe dans leur présent et que du coup, ils seraient démunis avec des enjeux nouveaux, des questions nouvelles. Je ne suis pas sûre que ça soit spécifique à l'Afrique.
Parce qu'il est étonnant, Moussa Houldebnou, lui, c'est un professeur de philosophie qui est également écrivain de science-fiction, qui vit en Mauritanie. Et alors, j'aime bien le rôle qu'il attribue à la science-fiction. Il écrit qu'elle peut contribuer au développement de la pensée africaine par la transformation de ses méthodes et de ses idées. On l'a abordé. Elle peut aider les Africains à transformer leur mentalité pour accompagner les changements et harmoniser leur modèle de développement. Effectivement, c'est les inscrire, c'est inscrire dans le, en direction du futur. C'est s'inscrire en direction du futur.
C'est ça. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il fait un parallèle entre son écriture et le raisonnement scientifique, en disant que, alors, j'ai trouvé, c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas remarqué, mais effectivement, il va y avoir un parallèle entre donc le raisonnement scientifique tel qu'on le connaît, hein, avec le modèle hypothético-déductif, on teste une hypothèse et puis on regarde ce que ça donne, en fait. Et effectivement, la science-fiction, c'est souvent écrit de cette manière-là. Ce n'est pas une manière d'aborder des choses qu'on trouve dans les autres littératures. Et ça, j'ai trouvé ça, je trouvais que c'était une trouvaille intéressante.
Et alors, vous avez trouvé facilement des textes de science-fiction africaine écrits par des Africains ?
Alors,
parce qu'une partie des textes proviennent justement d'autres pays, notamment anglophones.
Facilement, non. Alors, les pays anglophones, c'est quand même plus simple dans la mesure où les débouchés sont là. Avec, le monde anglo-saxon est suffisamment vaste et suffisamment visible en tant que science-fiction. Alors, avant de poursuivre sur cette question-là, je voulais quand même revenir sur la question précédente et citer Oulimata Gay, qui répond aussi à la question de tout à l'heure sur pourquoi faut-il une science-fiction africaine. Et je trouve que sa réponse est originale par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, puisque elle considère que c'est presque une obligation qu'il y ait une science-fiction africaine, puisque ça correspond à des évolutions qui sont déjà là.
Oui.
Donc pour elle, en fait, étant donné que la démographie fait que l'Afrique est forcément tournée vers le futur, c'est quand même le continent jeune, forcément les questionnements sur le futur, ils viennent de manière presque naturelle. Et donc, avec l'accession aux technologies, au numérique, pour elle, ça, c'est comme si elle considérait que la question se pose après coup. C'est comme si je vous demandais... À quoi sert votre foi ? Ben, je peux poser cette question parce que votre foi, il existe.
Oui, effectivement.
Ouais. Oui. Donc, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant. Et puis, elle cite quand même des récits qui vont allier le magique, les questionnements face à la technologie et qui sont déjà assez anciens. En disant que finalement, quand on regarde bien, cette science-fiction, elle existait déjà. Elle ça ne pouvait pas comme ça, simplement, quoi.
Parce que ça serait une manière aussi de réhabiliter l'histoire africaine. C'était le sens de cet article La science-fiction africaine par Oulimata Gay.
Oui, c'est ça.
C'est de réhabiliter aussi son histoire, c'est-à-dire pas uniquement de créer des récits de science-fiction du futur, mais c'est aussi prendre en héritage tout l'imaginaire africain.
C'est ça, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que plus je lis de la science-fiction, plus j'en écris, plus je discute avec des gens qui s'y intéresse, je me dis, mais on se trompe quand on pense que la science-fiction nous raconte des histoires du futur.
Oui, parce
c'est une littérature qui nous parle du présent avec un autre point de vue.
Et
forcément, un présent qui va être ancré dans un territoire ne va pas correspondre aux questionnements qui vont se poser dans un autre territoire. Donc, je pense aussi que c'est pour ça, cette espèce de... C'est presque une injonction à ce qu'il y ait une science-fiction africaine, mais enfin, elle est là, elle se fait toute seule, quoi.
Elle se fait toute seule, mais néanmoins, il est difficile de trouver des créateurs de science-fiction en Afrique.
Oui, parce que en fait, ils sont ancrés dans une réalité qui va correspondre aussi à celle des lecteurs. Et si vous avez, bah oui, j'imagine que vous avez lu les textes. C'était difficile pour moi de me dire, mais il y a une spécificité, il y a quelque chose en commun dans tous ces textes, parce que l'Afrique, c'est quand même un continent immense.
Oui, c'est toujours assez abominable et affreux de parler effectivement d'Afrique comme une globalité. C'est comme si on parlait de l'Europe comme étant une globalité, alors que ça n'en est absolument pas. Non, mais c'est vrai que c'est assez abominable d'utiliser ce terme. Je m'en rends bien compte en parlant, de créateurs de science-fiction africains. C'est tellement énorme et comme continent et tellement divers. Mais néanmoins, il y a cette surprise. Moi, en tout cas, ça m'a surpris de me dire que la science-fiction africaine, il y en a peu.
Peu. Alors, je serais pas aussi catégorique.
Ah, très bien, allez-y.
Alors, il y en a peu qui arrivent jusqu'à nous, donc ce n'est pas exactement la même chose. Et en faisant mes recherches sur les textes, je me suis rendu compte qu'il y avait, aussi une différence dans les circuits, c'est-à-dire que le monde de l'édition sur le continent africain, enfin, je globalise, mais évidemment, c'est pas pareil partout, mais passe beaucoup par l'auto-édition et par des circuits qui sont pas les mêmes que les nôtres, ce qui fait que les textes n'arrivent pas jusqu'à nous, mais ils sont quand même lus. Ils sont quand même lus par des gens qui sont dans ces pays, qui sont en Afrique. Et là où ça devient, c'est en train de devenir très très dynamique, c'est ce qui se passe sur Internet. Il y a des forums, des groupes, des sites, des pages, tout ce qu'on peut trouver comme lieu pour se rassembler de manière virtuelle, qui sont très vivants, très dynamiques. Où les gens écrivent. Ils écrivent et ils se font connaître de cette manière-là, par ces canaux-là. Il y a des revues donc, qui vont être disponibles gratuitement ou selon ces nouveaux modèles où on peut acheter toute la revue avec du contenu supplémentaire ou alors avoir accès uniquement au texte gratuitement. Et des revues comme ça, il y en a pas mal. Et du coup, il y a quelques-uns des textes qui viennent de là. Donc, c'est pas ça parce qu'on voit pas les choses de notre lorgnette qu'elle n'existe pas.
Très bien, tant mieux, parfait, très très bien. Eh bien, merci, merci beaucoup à vous de cet entretien téléphonique, Cathy Stewart, et de cet excellent numéro qui met vraiment l'accent sur ces problématiques-là, ce numéro spécial de Galaxy sur la science-fiction africaine. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.